R22 Tout Monde, antenne hors limite.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent et présente ce soir, en toute intimité. Pour vous présenter un peu Jeune Texte en Liberté et l'événement de ce soir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jeune Texte en Liberté, c'est un label d'écriture contemporaine, un peu comme une maison de disques. L'idée, sur l'écriture, l'idée c'est de travailler sur les textes contemporains et de travailler sur la question de la diversité pour plus qu'elle n'en soit une. Donc c'est s'interroger en fait sur les personnages, sur les histoires qu'on représente aujourd'hui sur les théâtres français. Donc avec Penda Diouf, autrice, on a monté un comité de lecture. Ce comité de lecture, du coup, sélectionne à la suite d'appels à textes 6 textes et après on fait des lectures des lieux théâtraux et à l'extérieur des lieux théâtraux pour aller à la rencontre et des gens, des habitants, etc. Jeune Texte en Liberté, chaque année, a une thématique. Donc là, la thématique de cette année, c'est le travail et l'humain. Donc la soirée de ce soir est en partenariat donc, avec Main d'œuvre et le festival Hors Limite. Donc nous sommes résidents depuis 4 ans à Main d'œuvre, donc ils nous permettent de faire des répétitions ici, toutes les répétitions des textes. Et après, on essaime un peu partout les écritures non éditées et non jouées. Le texte de ce soir, donc, c'est Taxi Woman d'Eric Delfin-Kwegwe, qui est camerounais, et comme nous n'avions pas les finances pour le faire venir, nous ne pourrons pas proposer une rencontre, j'en suis désolé. Mais on pourra échanger après à l'issue de la représentation. Donc la lecture est mise en scène, mise en voix par Karine Piazzi, avec Marie-Julie Chalut, Marcel Manguita et Amélia Ehou. Ça dure 1h10, 1h20. Merci.
Merci. Taxi Woman. Une étrange petite expérience.
Aujourd'hui, quand on est bon,
les gens s'étonnent.
Quand on est honnête, les gens hallucinent.
Quand on est toujours plein sourire,
les gens s'épatent. Les gens ne comprennent plus qu'il existe des gens qui soient encore bons, qui soient encore honnêtes, qui soient encore toujours plein sourire.
La bonté, l'honnêteté, le toujours plein sourire sont des vertus malades, en perte, égarées.
Vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour constater que le monde est devenu un gigantesque réservoir de gens dépressifs, de gens stressés, de gens qui courent à mille choses.
Des gens qui parlent vite, ne disent rien, qui n'articulent plus, qui ne sont plus au contrôle de la parole, du langage, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils font.
Les gens sont ailleurs, vivent dans un ailleurs de survie, de sécurité, de consommation. Les gens du monde ne sont plus aux vertus ni à la politesse. C'est du jadis, une histoire ancienne. Quand on me reproche 100 fois par jour pourquoi je souris aux gens qui ne me sourient pas, aux gens qui sont préoccupés par leurs problèmes comme s'ils étaient les seuls à avoir des problèmes, aux gens qui pensent à autre chose qu'un simple sourire qui ne leur apporte rien, un sourire qui se moque peut-être d'eux, pensent-ils, ça montre l'état des gens, l'état du monde. Je ne suis pas née comme ça, comme je suis. L'homme ne naît pas comme ça, comme je suis. Comme je suis, jamais on ne naît. Mi bon, mi mauvais, on est.
Avec une part de rancune de nos parents, avec une part de haine de nos parents, avec une part de colère de nos parents, avec une part de meurtre de nos parents, avec une part d'orgueil, de sentiment de supériorité de nos parents, avec une part de mal-être organique, génétique de nos parents, avec une part de soif de réussite de nos parents, avec une part de honte, de doute de nos parents, avec une part d'esprit qui n'est pas le nôtre, qu'on dit réincarné, chargé du passé des autres, de nos parents.
L'homme naît marqué des douleurs de sa généalogie, des douleurs de son enfantement. Comme je suis, jamais on ne naît. Mi bon, mi mauvais, on est. Avec cette part de joie de nos parents. Avec cette part de nostalgie de nos parents.
Avec cette part de compassion de nos parents.
Avec cette part de vérité, de sincérité de nos parents. Avec cette part de désir, de rencontre de nos parents.
Avec cette part d'agréable en nous.
Ce quelque chose d'authentique qui nous distingue, dont on maîtrise les sources. Avec cette part de dynamisme qui nous caractérise.
Avec cette envie d'aimer qu'on ne comprend pas.
Ce sourire dissimulé au fond de nous qui jaillit la plupart du temps inconsciemment.
L'homme naît emprunté des douceurs de sa généalogie. Jamais on ne naît soi, on naît toujours les autres. Les autres avant nous.
Pour être, il faut devenir. En être conscient, s'affranchir et devenir. La forge est le principe de l'être en devenir. Ni hasard ni chance n'existent. Seule la puissance du marteau frappé ouvre la voie.
Se forger, c'est violent. Violent avec soi, violent avec les autres.
C'est d'une violence. On doit cogner sans arrêt, sans relâche, sans fatigue. Sans meurtre, on ne peut devenir. Il faut tuer pour devenir tout, se les tuer un à un.
Tous ! Ces gens qui t'ont fait, ces gens qui t'habitent, ces gens qui te guident, qui t'influencent, tous ! Ces gens qui veulent demeurer tes maîtres.
Pour être humain, il faut s'affranchir. Tout affranchi est un meurtrier qui s'ignore, est un créateur de souffrance pour ces gens qui veulent le maintenir sous leur emprise.
Être sous l'emprise, sous la dépendance, c'est dangereux. C'est une mort à compte-gouttes.
L'homme naît esclave. L'humain meurt affranchi. Nulle autre vérité en dehors de ça. Et on me demande tous les jours, quelle est ta pathologie ? Tous les jours, on me le demande.
Quelle est ta pathologie ?
Parce que je suis bonne, je suis honnête, je suis toujours plein sourire. On me le demande, tous les jours.
C'est ça, ma pathologie. On ne naît pas comme ça, comme je suis. Jamais. On est inconnu à soi-même quand on naît. On n'est pas encore.
On est le passé des autres, leur fabrication.
Dans quelles conditions nous ont-ils fabriqués ? On ne sait. On est leur remords, leur frustration, leur souffrance.
On est leur désobéissance, leur petitesse, leur obsession. On est la somme des larmes et des rires, la somme d'hystérie et de complicité.
Nous sommes le résultat de l'addition génétique. En un mot, on est le fruit de l'ego. De l'ego des autres, on est fait. Faisons un gosse.
Je veux un enfant. Faites-moi un petit-fils.
Voilà ce qu'on est quand on est.
On doit devenir pour être.
Être initiatique.
Être métamorphose.
Je suis. Comment je suis devenue ?
Des ailes pour voler.
Nulle à l'école j'ai été.
3 années de suite que j'avais composé le brevet sans succès.
Le brevet a tué mon envie d'école.
Comme mes parents, j'ai arrêté les études tôt.
Très tôt, il faut le dire, que j'ai arrêté.
Ma mère est commerçante, mon père, conducteur de camion.
À 18 ans, toujours en classe de 3e, ça ne valait plus la peine.
Et mes parents m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?
J'ai répondu, conductrice d'engins lourds. Il y avait pas loin de la maison, la construction d'un énorme pont à 6 voies. C'est là que mon père travaillait. De la petite fenêtre de ma chambre, où je restais la plupart du temps parce que je n'allais plus à l'école, j'étais passionnée par ces gros camions, par ces caterpillars, par ces grues, par ces bulldozers.
Très vite, et toute seule, j'ai compris que mon rêve s'annonçait quasi impossible. Être femme de 18 ans et vouloir pratiquer un métier d'homme...
Pas n'importe quel métier.
Conducteur d'engins lourds. Mon rêve avait osé. Ma mère m'a toisée. En minaudant, mon père a accouché de quelque chose semblable à un faux sourire moqueur.
Tu feras du commerce.
Non, c'est mieux qu'elle s'initie à l'agriculture.
Elle a le sang du commerce.
On voit que tu n'observes pas suffisamment ta fille. Elle a une main qui fait tout pousser. En plus, c'est le métier de l'avenir, l'agriculture.
Je veux faire l'auto-école.
L'auto-école, c'est pas un métier. Tu as 18 ans. Tu es une femme, il te faut un métier où on te marie.
Avec un permis, je pourrais être chauffeur.
C'est ton père qui t'a mis cet esprit dans ta tête.
Son père encore et toujours son père.
D'où lui vient donc cette idée tordue ? Qui t'a dit que les femmes sont chauffeurs ? As-tu déjà vu une femme chauffeur ? Madame veut devenir chauffeur. N'importe quoi. Faire les études t'a dépassé. C'est conduire qui va te laisser. Même pour conduire, il faut un niveau intellectuel.
Calme-toi, ce n'est pas en grondant que tu vas lui imposer ton choix.
Ça veut dire que tu cautionnes son manque de lucidité.
Oui, toujours en train d'exagérer. Si elle veut faire comme son père, tant mieux.
Ah ça, non. Pas dans cette maison. Ma fille être chauffeur? On est dans quel monde là? Elle ne devient pas prostituée une fois?
Je ne ferai ni le commerce, ni l'agriculture.
Alors tu choisiras entre rester à la maison, t'occuper de tes frères cadets, ou de continuer les études, quitte à faire 5 ans dans la même classe? Je m'en fous!
Ma mère se lève et sort furieuse. Mon père me dit...
Je ne t'impose rien. Si c'est ce que tu veux, vraiment, tant mieux. Chacun sa voix. Ma voix n'est pas forcément la tienne. Écoute ton cœur et sois réaliste.
Puis il continue.
Tu iras vivre chez ton oncle. Ici, ça sera la guerre avec ta mère.
Je suis chez mon oncle. Mon oncle, lui aussi, est chauffeur, comme mon père. L'art de conduire est un don familial. Il est conducteur de bus scolaire. Lui, par contre, m'encourage. Il me dit...
Ton choix honore la famille. Et c'est la seule chose qu'on sait bien faire dans cette famille. Conduire.
J'entre à l'auto-école. Un an après, je passe mon permis B. La femme de mon oncle me dit « Tu es folle, ma fille.
Ton oncle et ton père t'induisent en erreur. Une femme, c'est pas fait pour conduire. Si tu n'as pas la tête pour les études, fais une formation. En couture ou en restauration. En coiffure ou en esthétique. Tenir le volant, c'est côtoyer la mort. Chaque matin, quand ton oncle sort, mon cœur se met à battre jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pas la route qui tue. Ce sont tous ces gens qui conduisent imprudemment. Ta mère. Tu fais de la peine à ta mère.
Quand j'informe mon oncle que je me suis inscrite pour le permis B1 et B2, il me dit...
Je vais te chercher du travail.
6 mois après, il ne m'avait toujours pas trouvé de travail. 1 an après, pareil. Personne ne veut embaucher une jeune femme de 19 ans non instruite qui ne sait que tenir un volant. Mon oncle me dit...
Ma femme a commencé à se plaindre que tu consommes beaucoup d'eau, d'électricité et de gaz. C'est un signe avant-coureur.
Que je ne rapporte rien, que je deviens une charge, un encombrement pour elle. La femme de mon oncle dit que je l'épuise déjà. Par coup de chance, ce soir, mon oncle rentre et me dit qu'il a peut-être quelque chose pour moi. Le chauffeur de son patron a été viré.
Mon patron cherche un chauffeur, je lui ai parlé de toi, il veut te voir, mon patron.
Le lendemain matin, au bureau du patron de mon oncle. J'entre. Il me montre une chaise. Je m'assois. Il me regarde, étonné. Il me dit...
Bonjour.
Je réponds. Il me demande...
Madame ou mademoiselle?
Mademoiselle. Il sourit. Il se lève, contourne son bureau, se dirige vers la grande fenêtre vitrée. Observe je ne sais pas trop quoi. J'attends, respire. Il se retourne enfin, j'entends...
Tu es chauffeur depuis combien de temps?
1 an et demi. J'ai un permis B. Dans 6 mois, je vais passer mon permis B1 et BE.
Quel est ton niveau scolaire?
Classe de 3e.
Tu as 19 ans, c'est ça?
Oui, monsieur.
C'est incroyable.
Pardon, monsieur?
Ton oncle, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand il m'a parlé de toi, j'ai tout d'abord cru qu'il me manquait de respect. Il me dit, ma nièce est chauffeur, très bon chauffeur. Je connais des centaines de femmes qui conduisent, mais pour moi, elles ne sont pas chauffeurs. Elles conduisent tout court. Être chauffeur, tu sais ce que c'est. Ma femme conduit, mes 2 filles conduisent. Pour autant, ça ne fait pas d'elles des chauffeurs.
C'est mon métier, monsieur, c'est différent.
Tu m'imagines assis derrière et toi au volant. Tu sais ce que dira ma femme. Monsieur se fait maintenant conduire par sa petite maîtresse. Sujet à la une. On n'a jamais vu ni entendu parler.
Mais monsieur...
Voilà ce que je propose. Comme j'aime bien ton oncle, je t'embauche comme agent d'entretien de mes services privés.
Je suis habillée en homme. J'aime bien m'habiller en homme. C'est ce que disent les gens. Que je m'habille toujours comme un homme. Merci, monsieur.
Tu commences demain matin, si tu veux.
Merci, monsieur. Pour être poli, je dis merci.
Et sois plus féminine. À 19 ans, habillée comme un jeune homme, c'est pas une bonne image pour une femme qui veut réussir dans le monde de l'emploi.
Voilà ma première rencontre d'embauche.
Je n'y suis plus allée.
Et mon oncle aussi commence à râler, comme sa femme. Le travail devient de plus en plus difficile.
Tu ne devais pas refuser cette proposition. C'est à partir d'une opportunité qu'on trouve une autre opportunité. Agent d'entretien, c'est convenable quand même pour une femme de ton âge.
6 mois après, toujours rien. Je réussis mon permis B1, BE. Coup de grâce. Mon père m'appelle, me dit...
Je t'ai trouvé un job. Pas très pour femme, mais bon... Si tu as choisi de faire de la conduite ton métier, ça veut dire que tu es prête à côtoyer un monde fait que d'hommes. Pour le moment, c'est le seul truc que j'ai sous la main. Un peu pénible pour une femme, mais bon, si tu veux prendre ton indépendance, tu dois prendre ton indépendance. Mon frère et sa femme n'en peuvent plus de te supporter. Tu seras autonome.
J'accepte. 35 000 francs par mois qu'on me propose.
Je dois livrer les vivres frais
avec un vieux pick-up.
Dans tous les grands marchés de la ville, dans tous les petits marchés des petits quartiers de la ville, dans tout petit marché des petits quartiers alentours de la ville, 35 000 francs par mois qu'on me propose.
J'accepte. 6 heures du matin, je me rends au lieu dit. Petit entretien sans grande difficulté avec le patron. Puis il me montre le pick-up. Un vieux pick-up, comme m'avait dit mon père. Il me dit...
Petite confidence... Cette société a été créée dans les années 94. Depuis lors, d'après l'histoire que je connais, n'a jamais embauché une femme comme chauffeur. Tu es la fille de l'ami du patron.
J'apprends que c'est pas le patron, le vrai patron.
Le patron m'a dit, c'est pas le sexe qui compte, c'est la qualité du travail. On veut que tu sois rentable. Si tu l'es, ça nous arrange. Alors n'écoute pas tout ce qu'on dira de toi. Ne vois pas tout ce qu'on fera pour t'emmerder.
Je lui dis, n'ayez aucune crainte, cher monsieur, je saurai me débrouiller toute seule. Depuis toute petite, c'est ce que je sais le mieux faire, me débrouiller toute seule. Une femme qui s'habille comme un homme, ça dit tout. C'est pas timide, une femme comme moi. Ça sait se défendre. Entre mes 3 grands frères et mes 2 petits frères, il fallait savoir se défendre, sinon pour m'en sortir entre mes 5 frères, j'ai eu chaud. J'ai dû bagarrer et gueuler tous les jours jusqu'à mes 18 ans entre papa qui nous administrait des fessées régulières et maman qui nous balançait tous les objets qui lui passaient par la main. Il fallait survivre. J'ai survécu. C'est pas maintenant qu'une bande à machos va m'intimider. N'ayez aucune crainte, cher monsieur.
Le pick-up est plein à craquer de vivres.
Une montagne de vivres derrière le pick-up.
C'est impressionnant.
C'est moi qui vais conduire ça. Je vais conduire ça. Je m'installe au volant. L'autre portière s'ouvre. Aussitôt.
Je suis ton coéquipier.
On ne m'a pas prévenu que j'allais avoir un coéquipier.
Et tu penses que c'est toi qui vas décharger tout ce que tu vois là, derrière ?
C'est pas impossible.
Nathan, ton coéquipier. Bienvenue. Mon boulot, je décharge, je livre, je récupère l'argent. Toi, tu conduis, c'est tout.
Je sais ce que je dois faire.
Voilà les papiers du véhicule. À l'intérieur, tu trouveras toutes les zones qu'on doit ravitailler. Ces gens qui se font du fric sur le dos des autres.
Quand je touche mon premier 35 000 francs, j'invite mon père prendre un verre. Il est content. Je lui dis, j'ai pris une chambre de 15 000 francs. Je ne suis plus chez tonton.
Moi et ta mère, c'est la guerre. Depuis que tu es partie. Elle ne comprend pas, elle ne digère pas. Elle dit que c'est de ma faute, toi sa seule fille, pourquoi avoir choisi cette voie ? Elle maudit le ciel. À cause de ça, à la maison, c'est dur, l'ambiance s'assombrit chaque jour. Elle ne cesse de multiplier les maladies. Et c'est pas de la maladie, hein. C'est de la maladie de la perte de sa seule fille. Tu comprends ?
Je comprends. Je passerai à la maison.
Si en plus de cela, il apprend que...
Que
comment vas-tu lui expliquer ça ?
Quoi, papa ?
Que tu ne te marieras pas ?
Qui t'a dit que je ne me marierai pas ?
Que tu n'auras jamais d'enfant ?
Qui t'a raconté tout ça ?
Ton père est un vieux singe, ne nous prends surtout pas pour des bêtes. Tu as 21 ans, on ne t'a jamais vu avec un petit ami. La femme de mon frère t'a épié pendant les 2 ans que tu as passé chez elle. Elle a compris. Ah, tu comprends pourquoi ta mère est de plus en plus malade ? Elle se refuse de croire. Elle lui a tout raconté. Je me suis tué à lui dire le contraire. Il faut que tu passes à la maison.
Je comprends. Je passerai à la maison. Tu veux que je te parle de mon job ?
Parle-moi de ton job.
Pas très épuisant comme tu me laissais croire. Je me passionne de jour en jour, c'est formidable.
Toujours formidable, les tout premiers jours, les tout premiers mois de boulot. À la longue, tu changeras de discours.
Je ne crois pas. Quelle sensation on éprouve quand on tient un volant. J'ai rajouté un coussin à mon siège pour mieux voir la route. Et ce vieux pick-up qui tombe constamment en panne, on est obligé de se faire pousser à chaque fois. Heureusement que mon collègue se débrouille un peu en mécanique. Et toi, quand tu conduis, qu'est-ce que tu ressens, papa ?
Je fais ce métier depuis au moins 40 ans, ma fille. Tout est devenu un automatisme. Quand tout est un automatisme, on sait mieux contrôler la pression du travail.
Quand j'appuie sur l'accélérateur, j'ai l'impression de vivre une autre vie. Tous mes sens sont activés, mes yeux sont à la fois sur la route, sur les rétroviseurs. J'écoute mon collègue qui n'arrête pas de parler, le bruit du moteur qui ronfle, le tuyau d'échappement sort une de ses fumées. J'ai développé l'art de la concentration. Le moment que j'adule le plus, c'est quand je fais un dépassement de 2 ou 3 voitures sur une ligne droite. Ce pick-up a un souci de vitesse, papa. De frein à main aussi. Mais je ne comprends pas. Il y a plein de pick-up neufs dans le parc, mais ils persistent qu'on utilise cette vieille carcasse.
Avec le temps, ils t'en donneront une autre. Tu es en observation. La règle prévoit qu'on ne donne pas une nouvelle voiture à un nouveau chauffeur. Dans la conduite, un accident est envisageable à tout moment. Tu ne cognes pas, on te cogne. Ce n'est pas le permis qui fait la bonne conduite. 2 aptitudes à développer. Vigilance, prudence.
Le patron m'a dit que c'est pas lui le patron. Que le vrai patron, c'est ton ami. Mon collègue m'a dit qu'il est très riche, le vrai patron.
J'ai travaillé pour lui quelques années.
Et pourquoi t'as arrêté ?
Je n'aime pas mélanger l'amitié et le boulot. Quand l'un chavire, l'autre se prend une belle raclée dans la gueule. On déverse les secrets, on fait mal à l'autre sans s'en rendre compte. En plus, la façon dont il a acquis sa fortune ne laisse pas à désirer. Si tu es là-bas, c'est juste pour une courte période. J'ai demandé un crédit à la banque. Dès que c'est bon, je t'achète une voiture.
Comment est-il devenu riche ?
Au départ, il avait 2 pick-up et 3 taxis hérités de son feu père. Quand ont éclaté les villes mortes en 92, je t'ai déjà raconté l'histoire des villes mortes. C'est la naissance forcée du multipartisme, période sombre qui a vu la terre de nos aïeux se refermer sur des vies en cavale. C'est à cette époque que mon ami a décidé de faire dans la contrebande. Il dealait avec des rebelles, allait dans les pays voisins leur acheter des armes avec ses voitures, les ravitaillait d'aliments les nuits venues, leur vendait des informations top secrets sur l'État et le parti unique. Personne ne sait d'où est-ce qu'il les prenait, ces informations. Alors que le pays tout entier croupissait dans l'effervescence meurtrière, lui, il faisait ça. Il n'y avait plus les moyens de transport, plus de moyens de se trouver à manger. Il engageait ses quelques voitures sur tous les fronts. Il faisait le transport frauduleux la nuit. À des coûts exorbitants, il rachetait aux pilleurs des marchandises et les revendait très cher. Il est allé même jusqu'à louer ses voitures à l'État et au parti unique pour le transport des morts. Puisqu'il avait les moyens de transport, l'État lui a donné le marché d'enterrer les morts. On lui versait beaucoup d'argent, des deux côtés. Il se faisait beaucoup d'argent. Il embauchait des jeunes pour creuser des énormes fosses où on balançait les cadavres qu'il ramassait avec ses voitures. C'est comme ça qu'il a bâti sa fortune, mon ami devenu grand patron.
Sur les ruines du pays, il s'est fait ?
Ce que tes oreilles viennent d'entendre, garde-le dans ton ventre.
Je ne peux pas continuer à travailler pour un homme comme ça.
C'est pas pour lui que tu travailles, c'est d'abord pour toi, pour t'en sortir. Il n'en a rien à foutre de votre petite société de vivre. Après les villes mortes, il s'est lancé dans l'agriculture industrielle, dans l'agroalimentaire. Il a investi dans l'immobilier, il s'est engagé dans l'import-export, dans l'éducation. Aujourd'hui, il est à la tête d'un empire.
C'est incroyable comme il existe des gens comme ça, comme lui.
Ma fille, c'est ton premier job. La vie a encore du temps devant toi. Partout où tu travailleras, ne cherche pas plus, contente-toi. Ne fouille pas dans la vie de la société, ni dans la vie des patrons. Fais avec ce qu'on te donne, avec ce qu'on te dit de faire avec. La vie des patrons, c'est trop compliqué. Les dessous des sociétés, c'est très complexe. Oublie ce que je t'ai dit. Tes collègues, comment ils se comportent avec toi ?
C'est la semaine passée que j'ai assisté à ma première réunion de travail. On est en tout 30 chauffeurs. Mais pour le moment, ils font semblant de ne pas me voir, voir ma différence, voir que je suis une femme. Je sens qu'ils ont reçu des instructions à mon sujet. Juste « bonjour, collègue ».
Et ton patron ?
Jusqu'ici, très sympa.
C'est un type bien.
Il est très attentionné. Quand je suis de retour pour déposer le pick-up, il me pose plein de questions sur ma journée de travail. S'inquiète, me donne des conseils, m'encourage. Je pense qu'il en fait même un peu trop.
Évite de voir l'ombre du soupçon partout.
Mais comme il est avec moi, c'est pas comme ça qu'il est avec les autres collègues.
Bah, tu es une jeune femme.
Non, je refuse qu'on me prenne comme ça, comme une jeune femme. Je ne suis ni jeune, ni femme. Je suis un employé tout court.
Ah ça, tu ne pourras pas le renier, ma fille.
Je lui ai déjà dit qu'il ne me regarde plus comme une femme. Je lui ai dit qu'il doit me traiter comme tous les autres. Je n'ai pas moins de potentialité qu'eux. Je pense en avoir même plus. Il m'a dit que mon rendement est le meilleur.
Si tu es heureuse, ma fille, c'est l'essentiel.
Merci, papa, d'être toujours à mes côtés.
Mais n'empêche que tu dois passer à la maison voir ta mère. Elle a besoin de toi.
Je comprends. Je passerai à la maison.
Tu es notre seule fille.
Je sais, papa.
Bon, je vais te laisser.
Je vous appelle avant de passer.
Très bien. Je peux embrasser ma fille ?
C'est la première fois, tu sais. On s'embrasse.
Un très curieux collègue.
Ça fait 5 mois déjà que je bosse. J'ai toujours pas aperçu la silhouette du grand patron. Certains collègues parlent de lui comme d'un homme invisible. Je collecte les informations. Je me fabrique un puzzle. Je comprends au fur et à mesure ce monde. Certains collègues dévoilent leur vrai visage. Ils ne me disent plus bonjour. On se passe à côté. Ils deviennent virulents verbalement, me rivalisent, se moquent de mon vieux pick-up, vont jusqu'à me saboter au patron. Le patron, lui, me rapporte tout. Il me raconte toujours tout ce que les autres collègues disent ou pensent de moi. Je l'observe du coin de l'œil, le patron. Lui aussi, je le vois venir. Il se rapproche chaque jour de moi, en me racontant parfois trop des autres. Ses yeux tous les jours sur moi. J'ai compris qu'il allait arriver là. Mais comme je suis, je ne peux rien pour lui. Il ne le sait pas. Il espère. Continuez d'espérer, patron. L'espérance est une grande vertu. L'autre, mon collègue coéquipier, c'est d'un drôle. Comme un perroquet, lui aussi me dit tout. Sauf que tout ce que lui me dit, je le prends avec des pincettes. Il m'a déjà raconté plus de 10 versions de sa propre vie. Il ne se rend même pas compte. Son travail, c'est de descendre les vivres du pick-up et de récupérer l'argent aux commerçants. Au retour, il a toujours un sac plein d'argent. On doit lui faire confiance grave. Un homme qui traîne autant d'argent sans jamais rien toucher. C'est avec lui que je passe la journée. Il maîtrise le nombre de contrôles de police qui existent dans chacune des zones qu'on parcourt. À chaque contrôle, il se précipite de descendre. J'ai remarqué qu'il file à chaque contrôle un billet de 500 francs aux flics, un billet de 1000 francs pour les contrôles de la gendarmerie. Est-ce qu'on est obligé de leur filer de la thune tous les jours ?
C'est la règle du jeu.
Je comprends pas.
Quoi ?
On a tous les papiers.
Qu'importe qu'on ait tout, si tu ne fais pas comme ça, ils te pourrissent la vie.
En quoi faisant ? C'est un bien curieux personnage. Il ne m'a jamais fait de compliqué, jamais fait de reproche, jamais demandé rien sur moi, jamais rien éprouvé de différent. Toujours le même regard, la même émotion floue. Il parle, il raconte trop d'histoires contradictoires, c'est son défaut. Il ne m'a jamais proposé de m'inviter. Un homme qui passe ses journées avec une femme, sans lui faire la cour, les clins d'œil, c'est rare. Après le travail, tout s'arrête là. Ça me dit de l'inviter. Pour en savoir un peu plus sur sa vie. Est-ce qu'il est comme moi, je me demande. En même temps, je sens parfois qu'il prêche le faux pour avoir le vrai. Je le sens. Lui aussi me parle trop des collègues, du patron. Je sens qu'il attend que je lui parle mal des collègues, du patron. C'est un bien curieux personnage. Il gagne moins que moi, 30 000 francs. Il mène un train de vie, je vous dis pas. Plusieurs fois par semaine, il met des vêtements différents, des chaussures différentes. À la pause de midi, il disparaît toujours. Où va-t-il? Je ne sais pas. Il revient 1h30 après, inchangé, le sac et l'argent. C'est la seule personne que le patron ne me raconte pas. Vu le travail qu'il fait, descendre les vivres du pick-up, s'habiller comme il s'habille, ça va pas de pair. On est arrivé à un contrôle l'autre jour, il me dit...
Ce ne sont pas les policiers là-bas, ce ne sont ni les gendarmes là-bas.
Je sais.
Ce sont les routiers, les policiers d'axes lourds. Chez nous, ça n'existe pas. Les autoroutes, on les appelle les axes lourds. Avec eux, c'est toujours trop compliqué.
Me dit-il. Il descend comme d'habitude. Se dirige vers les quatre routiers. Il cause. Leur tend discrètement l'argent. Un des routiers refuse. Se met à gueuler. Je vois qu'un des routiers le menace avec son doigt. Je veux descendre. J'hésite. Il revient. Entre dans le pick-up. Qu'est-ce qui s'est passé?
À peine j'arrive à leur hauteur que l'autre énergumène me dit « Donne-nous 10 000, on est quatre !» Je lui tends 2 000, il refuse et se met à me gueuler dessus. Ils n'auront plus un radis.
Calme-toi.
Et l'autre con dit « Tu es désormais sous amende, motif tentative de corruption d'un service de sécurité routière. » N'importe quoi.
Donne-moi 5 000, j'irai.
On ne leur donne plus rien, je te dis.
Deux des hommes avancent vers nous. Ils arrivent à la hauteur du pick-up. Lundi. Monsieur, descendez de cette voiture. Mon collègue descend sans rien dire. L'autre approche de ma portière et me lance. « C'est vous la conductrice ?»« Oui, monsieur. Montrez-moi votre carte d'identité. » Je montre. « Votre permis ?» Je montre. Il me lance. « Ce permis ne vous donne pas le droit de conduire ce genre de véhicule. » Je lui montre mon permis B1. Mon permis BE, je lui montre. « Pour être au volant de ce véhicule, il vous faut un permis D2. »« Monsieur, les permis D2, c'est pour les conducteurs de bus, » je lui réponds. Vous voulez me remontrer que vous connaissez mieux que moi? Donnez-moi le dossier. Je lui donne. Mon collègue est au téléphone. L'autre me lance. Vous avez une boîte à pharmacie? Je ne réponds pas. Il me lance encore. Votre véhicule doit être mis hors circulation, c'est trop vieux. Ça éjecte la fumée nocive pour les populations et l'environnement. Je ne réponds pas. L'autre me dit. Démarre. Je démarre. Allume les clignotants. Klaxonne. Les phares côté passager. Il cherche des motifs. Il y a plein de motifs. Votre véhicule a un problème de parallélisme. D'après la loi, c'est interdit de faire un pareil chargement. Vous n'avez pas le droit de bousiller cette voiture. Qu'est-ce que je n'entends pas comme motif? J'ai un œil sur mon collègue qui n'arrête pas d'appeler les gens. Madame, si vous n'avez pas 50 000, votre pick-up ira en fourrière. Mon collègue se rapproche enfin et me dit.
Gaël, on s'en va.
Et la voiture?
Ils se débrouilleront de la ramener au parc.
Monsieur, vous ne bougez pas d'ici.
Jusqu'ici, monsieur, je me suis bien comporté. Mais si vous continuez...
Qu'est-ce que vous allez faire, petit voyou? Vous menacez des hommes en tenue?
Je suis capable de vous faire arracher cette tenue pour le restant de votre...
Calme-toi, Nathan. Les deux appellent les deux autres collègues. Petit délinquant, tu passes ta journée à vendre les tomates, les pastèques, les papayes. Tu insultes les hommes d'État. Le téléphone de l'un des routiers sonne. Il décroche, s'éloigne. Quelques minutes après, il revient et calme ses collègues. Il nous dit « Vous pouvez partir. » Mon collègue dit
« Je ne pars plus. »
Le routier l'emmène de côté. Je vois qu'il le supplie. Je me rapproche des trois autres. Je demande ce qui se passe. Je ne comprends rien. Ils me regardent, curieux, l'un lance. « Vous ne savez pas qui est votre collègue ?»« Non, c'est le fils de l'éléphant. » »« De l'éléphant ?»« Putain d'enfant de riche, il se croit tout permis. » C'est qui l'éléphant? Allez lui demander vous-même! À peine une dizaine de minutes, une Mercedes et une Pajero gare. Je vois les routiers en panique. Une dame d'un certain âge s'avance. Dit à Nathan d'entrer dans la Pajero. Il entre. Elle s'adresse poliment au routier. Je suis debout, blême. Je ne comprends rien. Finalement, elle me sort de mes réflexions. Mademoiselle, ramenez le véhicule au parc. Je ramène la voiture au parc. Sans chercher à comprendre, je ramène la voiture au parc. À peine j'éteins le moteur, que le patron est déjà tout près de la portière.
Alors?
Qui m'avez-vous collé comme coéquipier?
Après tout, c'est moi le patron. J'ai pas à vous répondre.
Moi-même?
Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup jusqu'ici? Tu as été irréprochable.
Qui est Nathan?
Je préserve la vie privée des employés. Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même?
Et l'éléphant, qui est-ce? Tu n'as pas vécu ce que je viens de vivre. Il a suffi d'un coup de fil pour que les routiers se mettent à les supplier, que des voitures de riches gares, qu'une dame qui lui ressemble descende pour le calmer. Cette dame, qui est-ce? Sa mère? Nathan est un enfant de riche? Et l'éléphant, c'est son père?
Ouais, tu as tout compris, l'éléphant, c'est son père.
Mais quel est le rapport avec la société?
Son père est le grand patron, l'ami de ton père.
Et son fils qui vient décharger les vivres, c'était quoi son plan?
Nathan est ingénieur agronome. Son père veut lui confier la gestion de l'une de ses sociétés, mais a décidé de lui faire passer des épreuves. Il pense que pour être chef, il faut avoir vécu toutes les expériences du plus bas jusqu'au plus haut.
Il a très bien joué son jeu. Ça, c'est un coup que je viens de recevoir en pleine figure. Désormais, je me méfierai des apparences. Des collègues, faut craindre. On ne sait jamais qui se cache derrière l'habit du monde.
La couleur du taxi jaune.
Je passe à la maison comme promis à papa. Je suis dans la chambre avec ma mère. Elle me regarde, veut me parler. Je sens qu'elle veut me dire quelque chose. Elle n'arrive pas à tenir le bout de la parole. Sa parole est quelque part, en elle, bloquée dans son souffle. Je sens le cumul des émotions néfastes, ses nerfs qui battent. Ça monte en elle, ce désir criard, cette pulsion obsessionnelle de vomissure, de rage. Je la vois, cette malédiction. Ça noue ses organes, ça monte dans sa gorge, elle va cracher. Je suis prête à encaisser, à me laisser oindre des paroles de haine de ma mère. Chance pour moi, papa est au seuil de la porte. Il entre, s'assoit près de nous. Le climat se fragilise. Maman commence à respirer autre air que l'air du cumul de la moisissure. Je ne peux plus contenir ces larmes qui, depuis, me nouent. Je les laisse couler. Ma mère aussi. Papa baisse la tête. J'éclate en sanglots, c'est plus fort que moi. Ma mère m'attire dans ses bras, je me blottis contre sa poitrine. Elle m'enlace comme autrefois quand j'étais encore toute petite, quand je faisais encore sa fierté. Pardonne-moi, maman, je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Il y a des petits mensonges qui ont des vertus d'apaisement. Ce que je suis, c'est ce que j'allais être. On n'est jamais autre chose que ce que l'on doit devenir. Je sais que je suis la honte de la famille, mais une honte qui n'a pas choisi de souiller sa famille. Jette ta fille, mais ne renie pas ce qu'elle est. Tous les enfants ne peuvent pas être le fruit du désir de leurs parents. Tu sais très bien que chacun a sa voix. Voici la mienne. Je te demande pardon si cette voix ne te convient pas, si cette voix entache ta dignité. Je suis vraiment désolée. Papa, acceptez-moi comme je suis. Comme je suis, c'est la fin de ce que j'allais devenir. Gaëlle, maman. Au salon, mon père me murmure à l'oreille.
J'ai une surprise pour toi.
Je le braque d'un regard de joie. Il me tend un trousseau de clés, je hurle, bondis sur lui, je suis hyper contente.
Fini avec le vieux pick-up.
Me lance papa, j'avais déjà décidé de ne plus y aller.
Pour quelle raison, ma fille?
Mais mon collègue bavard dont je te parlais, tu ne sais pas, mais c'est le fils de ton ami milliardaire. Il veut le positionner dans les affaires, mais avant, il le traîne d'abord sur des tas de légumes. La façon dont j'ai découvert ça, ça m'a foutu les boules. Assez de m'emmerder dans une société d'hypocrites.
C'est pas étonnant, il est capable de tout, mon ami. Maintenant, tu pourras te mettre à ton propre compte.
Adieu les patrons. Désormais, je suis mon propre patron. Merci, papa. Je l'embrasse.
Allez, va essayer.
Je sors. Devant moi, une Toyota Corolla déjà peinte en jaune. Pas flambant neuf, le jaune. C'est la couleur des taxis chez nous. Elle est d'occasion. Ce que j'éprouve est plus fort que les mots. Merci.
Gaëlle, le dossier. Tu as tous les documents là-dedans.
J'embrasse de nouveau papa.
N'oublie pas surtout, tu dois aller t'enregistrer dans un syndicat de transport urbain. Asseyez-vous, je vous en prie.
Merci, monsieur.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je viens à m'enregistrer comme membre du syndicat.
Pardon, madame, mais vous avez confondu de syndicat.
Je ne pense pas, c'est un collègue qui m'a indiqué ce lieu.
Une minute, je vous en prie. Je vais vous donner l'adresse d'un ami qui dirige un autre syndicat, le syndicat des chauffeurs de véhicules personnels.
J'aurais dû me présenter avant. Je suis chauffeur de taxi.
La bonne blague.
Pas du tout, monsieur.
Vous racontez n'importe quoi, là, madame.
Si je vous le dis.
Vous êtes taxi woman?
Non, je suis conductrice de taxi.
Une taxi woman? Mais je suis sûr d'être le premier à avoir prononcé ce mot. Votre taxi, il est où?
Garé juste devant l'entrée.
Peint en jaune. Vous avez tous les documents?
Sinon, je ne serais pas venue vous emmerder. En plus, le jaune, c'est ma couleur préférée.
Excusez-moi, mais est-ce que vous vous rendez compte?
Je me rends compte. J'adore ce job.
Vous allez repasser dans quelques jours, voire une semaine. Il faut que je me renseigne pour voir si j'ai le droit de vous admettre comme membre du syndicat. Je vais appeler le délégué régional de transport. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Le délégué régional appellera à coup sûr le ministre. Ou alors, j'ai une idée. J'ai une amie qui travaille à la délégation de la promotion de la femme et de la famille. Ça sera parfait si madame la déléguée vous délivre une attestation mentionnant qu'elle vous autorise à être taxi woman. Non, ne soyez pas surprise de mon comportement. C'est moi qui suis très surpris de votre comportement. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays, jamais auparavant, à grand jamais.
Il prend son téléphone, passe 3 à 4 coups de fil, me demande mon dossier.
Je lui donne.
Il dit qu'il va faire des copies.
Il sort.
Juste quelques minutes après,
un homme entre.
S'assoit en face de moi.
Me salue.
Puis deux hommes entrent en discutant à vive voix.
Me salue.
S'assoit près de moi.
Un autre.
Puis un autre.
Puis un autre encore.
Tous me saluent gentiment.
Me sourit.
Me regarde discrètement.
En peu de temps, le petit bureau est plein d'hommes.
Plein d'hommes qui font semblant de discuter.
Tous me dévisagent.
Je suis la curiosité en personne.
Je sors mon téléphone.
Fais semblant d'être concentrée dessus.
À peine je baisse la tête que tous ces regards me braquent.
Que le poids de ces regards me pèse.
J'ai envie de me lever,
de m'en aller.
Cette pression qui monte en moi
me devient insupportable.
Il revient enfin.
Le syndicaliste
me remet mon dossier.
Me tend des documents à remplir.
Me dit de revenir dans une semaine.
Quand je me lève,
tous les regards se lèvent.
Le monsieur sourit.
Il a été témoin de la scène.
Je suis habillée comme j'ai l'habitude de m'habiller.
Un jean baggy.
Une paire de tennis Reebok.
Un t-shirt avec une image de poing fermé.
Une casquette.
J'adore les casquettes.
Au seuil de la porte, j'entends.
Madame ou mademoiselle, vous ne m'avez toujours pas dit. Alors si vous êtes madame, apportez-moi une autorisation de votre mari. Et si vous êtes mademoiselle, je veux voir un mot écrit de la main de l'un de vos parents.
C'est la voix du syndicaliste.
Voilà ce que doit vous fournir une femme pour faire un job.
Surtout un job d'homme.
De l'épreuve de la rencontre de l'autre.
Avez-vous déjà emprunté un taxi à Lagos?
Avez-vous déjà emprunté un taxi à Dakar, à Abidjan?
Avez-vous déjà emprunté un taxi à Bamako, à Conakry, à Niamey?
Avez-vous déjà emprunté un taxi à N'Djamena, à Cotonou, à Bangui, à Libreville?
Emprunté un taxi à Kinshasa?
Emprunté un taxi à Accra,
emprunté
à Marrakech?
Un taxi à Tripoli? À Kigali, à Antananarivo.
Emprunter un taxi à Harare, à Luanda, à Addis Abeba, à Maputo.
Quand tu empruntes un taxi à Pretoria, à Bujumbura, à Nairobi, à Rabat, à Gaborone, à Nouakchott, à Douala, tu comprends pourquoi on s'étonne de voir une femme au volant d'un taxi. Être au volant d'un taxi, c'est toucher la misère du peuple. C'est vivre toute la pression du peuple. C'est au volant d'un taxi qu'on ressent le mieux le poids de la frustration d'une société. Quand un homme ou une femme qui n'aime pas son job entre dans un taxi, on le sent. Quand un homme ou une femme rentre d'un job qu'il n'aime pas, on le sait. Quand la maison devient invivable, quand au boulot le climat est insupportable, dans le taxi pour l'aller ou pour le retour, les gens s'apaisent, soufflent.
Dans mon taxi, je rencontre tout genre de personnes. Ceux qui sourient, ceux qui ne sourient pas, ceux qui disent bonjour, ceux qui ne disent pas. Ceux qui sont de bonne humeur, ceux qui ne le sont pas.
Je rencontre les aigris, les gentils, les fourbes, les sournois, les entendants, les malentendants, les cochons, les bandits, les escrocs, les justes et les efféminés.
Je rencontre les mauvais, les filous, les colériques et les joyeux, les sans émotion, les putes, les infidèles, les malades, les riches, les moins riches et les pauvres.
Je rencontre les vieux, les jeunes, les handicapés, les femmes enceintes, les dragueurs, les gigolos, les divorcés, les veuves, les hommes honnêtes et malhonnêtes.
Je rencontre aussi les morts. Ceux qui crèvent dans mon taxi quand on est en route pour l'hôpital. Ceux qui crèvent par suite d'accidents. Ceux qui crèvent parce qu'un alcoolique les a cognés. Mon taxi est un fourre-tout. Toutes les pourritures de mon pays y ont laissé leurs traces, leurs marques, leurs odeurs.
Sur les sièges de mon taxi, devenu objet archéologique, je lis l'histoire des hommes. L'histoire décousue de mon pays. Trois fois colonisé. Cette sueur qui dégouline de tous ces corps magasins d'émotions refoulées. Ces corps pâtes à modeler des dictatures. Ces corps instruments à soumission. Ces corps beaux, laids, moches, bruns, noirs, métis, albinos, blancs, chinois, arabes, infirmes. Cette sueur puant leur ras-le-bol. Cette odeur de sueur qui dit l'état des hommes, l'état du monde.
Mon taxi est un petit monde ambulant. Un petit monde roulant qui roule sur l'infortune du passé, sur les fractures du présent. On paye les impôts, on paye les assurances, la carte grise, toutes ces vignettes, ces taxes syndicales, ces taxes communales, et l'argent disparaît dans les caisses de l'État. L'État éponge, l'État aspirateur.
Je suis la conductrice d'un micro-monde peint en jaune qui roule sur du bitume allemand. Sur du bitume anglais, sur du bitume français. Trois fois colonisé et l'état des routes dit l'état de l'état. Avec des crevasses qui parsèment la chaussée, des égouts bouchés depuis des années, des inondations, des lacs au niveau des carrefours, des signalisations avec coupure constante d'électricité, à quoi ça rime ? On paye au pays le droit de creuser notre propre tombe.
La malheureuse réalité, on la porte au quotidien.
Malgré l'état malade de l'État, l'état malade des choses, mon taxi reste un lieu d'accueil qui réconforte, apaise certains.
Oui. Au volant de mon taxi, je suis témoin d'un monde fracassé, d'un monde qui n'est pas, d'un monde qui aspire à devenir, d'un monde qui cherche à brûler les étapes. À l'inverse du monde en vitesse, mon pays peine à démarrer. Roule lentement. Ça klaxonne trop, ça cogne les piétons. Ça freine où il ne faut pas, ça se heurte au développement, se fait heurter par les dictatures. Ça confond accélère et embraye. Ça clignote à droite au lieu de clignoter à gauche. Ça viole les feux. C'est ça qu'il sait le mieux faire. Ça se laisse rattraper par les embouteillages des indépendances. Ça s'emmerde quand on approche des élections parce que le nom du vainqueur trône sur les lèvres depuis des décennies. Oui ? Le pays, comme moi dans mon taxi. On prend les raccourcis, évite les péages, s'arrête pour laisser pisser les hommes, pour laisser vomir les femmes. Et les vieux en mal du pays ou en mal de taxi n'ont qu'à tous crever.
Un gosse dans un taxi, c'est comme une bête apprivoisée. Il est calme, tranquille, curieux, observateur. L'intérieur d'un taxi est un lieu à part qui offre une autre émotion, une vision panoramique. L'émotion d'être celui qui observe les autres, le pays. Un pays en panne d'essence, sous-sol florissant et le prix du carburant grimpe à chaque changement d'humeur. Les tontons bobos n'ont qu'à tout exploiter. Le peuple est un gosse somnolent et les pilleurs en profitent.
Quand vous êtes assis tout près de la vitre, que vous laissez votre regard traîner sur ces paysages chaotiques, sur ces scènes de violence, sur ces pauvres commerçants ambulants, sur ces piétons affamés, sur ces montagnes d'ordures, sur ces bandes d'ados délinquants, sur ces quartiers marécageux, sur ces bidonvilles à n'en plus finir, sur ces lycéennes qui escaladent les barrières des lycées, sur ces corps écrasés, sur la chaussée, sur ces kilogrammes, de plastique qui flotte dans les airs, sur tous ces corps déambulants comme des malades sous un ciel canicule, quand vous regardez tout ça juste pour une fraction de seconde, vous vous dites « Je suis à l'abri, en sécurité, dans ce taxi. »
L'ambiance dans mon taxi n'est pas toujours de bonne gaieté. Parfois, c'est aussi violent et impudique. Ou même les clients entre eux ne se donnent pas le lait.
Poussez-vous, monsieur !
Vous nous indisposez avec votre cigarette.
Arrêtez de barbarder dans mes oreilles, je vous en prie.
Arrêtez d'éternuer, vous allez tous nous contaminer.
Si vous êtes malade, restez chez vous, bon Dieu.
Vous avez fait des gaz, madame, putain, ça chale grave.
Pardon, laissez-moi sortir avant d'entrer, vous êtes trop sale pour vous asseoir tout près de moi.
Apprenez à vous habiller décemment, c'est quoi cette tenue de pute ?
Mais je vous emmerde.
Pour qui te prends-tu, scélérat ?
Vous ne valez même pas ma ménagère, ivrogne de votre espèce.
Il a l'âge de payer une place, hein, votre gosse. Allez, calmez-le, hein, sinon je vais lui en foutre une, moi.
Arrêtez votre tête. Si vous avez sommeil, rentrez chez vous.
Mais comment vous me parlez, vous ?
Les jeunes n'ont plus le sens du respect.
Et vous, les vieux, allez en retraite maintenant. Ce pays n'avance pas à cause de vous. Hein.
Si, par hasard, vous intervenez, le client vous prend en sandwich. Il vous déverse toute sa poisse. Il suffit juste d'un petit malentendu pour qu'on vous traite de tous les noms.
On ne nous respecte pas. On dit chez nous que c'est un métier sans diplôme.
Alors, les clients t'engueulent, te provoquent, te dénigrent parce qu'on dit que le client est roi.
Imaginez cette scène. Un homme entre dans mon taxi. Il ne me dit pas bonjour parce que je ne vaux rien. Je suis qu'une pauvre jeune femme qui a raté sa vie et qui traîne derrière un volant. Il sait que le tarif est de 300 francs. Il n'a pas de monnaie, mais il ne me le signale pas. Pourtant, c'est écrit. Avisé en cas de billet. Quand il arrive à destination, il descend et me tend un billet de 5000 francs. Je lui pointe du doigt ce qui est écrit. Il se fâche et me lance.
Je ne savais pas que votre taxi était une bibliothèque.
Payez-moi, monsieur.
Tenez vos sous et remboursez-moi.
Vous me devez 300 francs.
Remboursez-moi 4700.
Je n'ai pas de monnaie.
Moi non plus.
Vous ne m'avez pas signalé que vous avez 5000 francs.
Allez vous planter dans un carrefour si vous êtes un feu de signalisation.
Allez, alors je vous en fais cadeau.
Je n'ai pas besoin de vos pauvres 300 francs pour m'enrichir. Débrouillez-vous à trouver la monnaie. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Dépêchez-vous.
Je démarre pour partir, il me lance.
Allez-y, avec votre malchance.
Soyez béni, je lui rétorque. Il court et frappe le capot de mon taxi. Des clients comme ça, il y en a des dizaines par jour. Et quand tu rentres le soir, c'est pas la conduite qui t'a épuisé. Ce sont les clients qui t'ont mis mal à l'aise.
Avec mon job, j'ai appris la maîtrise de soi. Faut toujours être souriante, toujours de bonne humeur. Sinon, après quelques années de pratique, tu chopes le mal des nerfs. Ou une hypertension artérielle. Des exemples comme ça, j'en ai plein la caisse. Comme cette dame qui veut entrer s'asseoir devant. Je lui dis « Madame, je vous en prie, asseyez-vous derrière. » Elle me demande pourquoi. Je lui dis « Devant, c'est deux places. Et vu votre gabarit, c'est mieux que vous vous asseyez derrière. » « Vous avez un problème avec mon gabarit, mademoiselle ? C'est moi qui vous ai dit d'être maigre ? Si vous vous nourrissez mal, c'est pas mes oignons. Excusez-moi, madame, mais si vous vous asseyez devant, vous payerez deux places. Vous m'avez bien regardé. Je suis à 600 francs près. C'est comme ça chez nous. Les taxis, c'est deux places devant, quatre places derrière. » La dame entre devant, met sa ceinture de sécurité. Je comprends qu'elle est d'une classe sociale élevée. Pas de ceinture de sécurité dans les taxis chez nous, à part les chauffeurs pour éviter de prendre les amendes des flics. La dame, au lieu de s'occuper d'elle, elle s'occupe de moi. Elle me regarde, me dit « Roulez doucement, madame, je suis à 40. Attention, il y a une chèvre qui traverse !»« J'ai vu, madame. Vous ne voyez pas que le véhicule qui est derrière nous fait des appels de phare ? Laissez-le passer !»« Je vous en prie. » Laissez-moi conduire. Vous conduisez très mal. Vous voulez le faire à ma place. J'ai un chauffeur qui le fait mieux que vous. Vous avez de la chance. Garez-vous là. Pardon ? Garez-vous, je veux descendre. Je vais prendre un autre taxi. Je me gare. Elle descend, j'attends. Madame, payez-moi. Non, je ne peux pas vous payer puisque je suis descendue à destination. C'est vous qui avez choisi de descendre. Je pourrais porter plainte pour mauvaise conduite. Bonne journée, madame. Je m'en vais.
Job mon cœur deux fois.
On m'appelle Taxi Woman.
Driver Woman.
Wonderful Wife.
First Lady Drive.
Taxi girl man.
Conductor girl.
Sexy conductor.
Volant baby.
Chauffeuse love.
Avant-gardiste sister.
Homme, femme.
Femme voiture.
Première femme à conduire un taxi. C'est moi. Dans mon pays, c'est moi.
Je suis sur toutes les lèvres à la télé.
Dans toutes les bouches à la radio.
La presse écrite, écrit, en fait une tonne.
Je deviens l'histoire à raconter, à faire connaître.
On me montre, me pointe du doigt, me cite.
Beaucoup comme exemple à ne pas suivre.
D'autres me maudissent.
Il a fallu du temps pour convaincre.
La femme doit toujours convaincre.
Prouver qu'elle peut.
Et même faire mieux.
Surtout quand tu t'appelles Gaëlle.
Quand tu fais un job d'homme.
Quand tu t'habilles comme un homme.
Quand tu ne peux désirer qu'une femme.
Quand l'enfant ne figure pas dans tes projets.
Tu deviens la risée de la famille, de la société.
On te traite de tout, de rien, de n'importe quoi.
Pour faire ce job comme je le fais, il m'a fallu des tripes, de l'endurance, de la détermination. Il m'a fallu bousculer les mœurs, violer la tradition, contredire mon père, rendre malade ma mère. Affronter les regards haineux, les dires détestables, il m'a fallu.
Pour faire ce job comme je le fais, il m'a fallu oser. Une femme qui ose est un homme en devenir, dit-on. Un esprit qui vient de loin. On dit de moi que je viens de loin, que je ne suis pas de cette époque. Ton époque n'est pas encore arrivée. Il m'a fallu tout supporter, trop supporter. Tout supporter, il m'a fallu.
Pour faire ce job comme je le fais, il m'a fallu du cœur, du temps. Il faut du cœur en bonne endurance, en bonne santé, pour faire ce job. Savoir patienter, dire pardon et accepter le pardon des autres. S'ouvrir, il m'a fallu. Mon job est ma vertu première. Grâce à lui, je me suis dessinée, je me suis forgée.
Pour être, tu dois devenir. Devenir ce que tu aspires à être. Sans m'en rendre compte, tous les jours, je fais du théâtre, j'incarne des rôles, je joue des personnages. Sans m'en rendre compte, je ne suis pas chez moi comme je suis dans mon taxi. Je ne suis pas en famille comme je suis dans mon taxi. Je ne suis pas dans mon taxi comme je suis chez moi, comme je suis en famille. C'est fou la métamorphose qu'on effectue sans se rendre compte. Maintenant, je me rends compte que je ne dis pas bonjour pareil à tous les clients, que je ne souris pas pareil à tous les clients, que je ne réponds pas pareil à tous les clients. Je fais du théâtre désormais. Mon taxi est devenu ma scène, le lieu du drame de ma société. Tu veux connaître les douleurs d'un peuple ? Emprunte un taxi et discute avec le conducteur. Je suis une comédienne. Le personnage principal, c'est moi. Je joue. Mes clients sont des personnages secondaires, ils jouent. Au volant de mon taxi, je joue. On joue. Chaque client a ses humeurs. Devant chaque client, mes humeurs diffèrent. C'est la vraie comédie humaine qui se joue tous les jours dans mon taxi.
Mon job est ma vertu première. Grâce à lui, je me suis dessinée, je me suis forgée. Pour être, tu dois devenir. Devenir ce que tu aspires à être. Dans la vie, il faut jouer. Sinon, tu te fais bouffer par la vie, par les gens et par le job. Quand le job n'est pas une vertu, il devient un poison. Alors jouons. Jouons à devenir. Jouons à être. Soyons.
Avec Elsa.
Entre collègues, c'est pas une partie de plaisir.
Chacun se démène bec et ongles pour se faire une recette.
On s'invente sa déontologie propre.
On double son collègue où il ne faut pas.
On stationne devant lui pour lui bloquer le passage.
Aux heures de pointe, l'amitié s'effrite, c'est chacun pour soi.
Les clients sont embarrassés, c'est au chauffeur qui draguera le mieux.
Aux heures de pointe, les trottoirs sont bondés de monde. À peine tu te gares que les clients sautent dans ton taxi. Parfois, ils choisissent le taxi qui est propre. Le taxi qui n'augmente pas le tarif parce qu'il y a du monde. Le taxi dont l'intérieur est le mieux décoré. Le taxi qui vibre de la bonne ambiance. J'offre de la bonne ambiance dans mon taxi. De la bonne musique, j'en ai. Les gens ont besoin de bonne ambiance. Les gens ont besoin de s'évader. Vu l'état des gens, l'état du pays, quand l'occasion s'offre à moi, je partage la bonne humeur. Les gens rêvent de poésie et d'amour, comme si ces vertus avaient quitté le monde.
Il y a des jours comme ça. Des jours où je veux faire un pas de côté, sentir autre chose, vivre d'autres expériences. Des jours où je décide de porter une jupe au lieu d'un jean. Une jupe au volant d'un taxi, c'est le piège des hommes. À peine je me gare devant un homme qu'il a déjà ouvert la portière. Bien installé, il oublie sa destination parce que ses yeux sont braqués sur mes cuisses. Quand je me retrouve seule dans mon taxi avec un homme, c'est pas le paysage qu'il regarde, ni la Jordane que j'ai sur la tête, ce sont mes cuisses qu'il regarde, à avaler la salive. Il ne va pas par mille chemins pour multiplier les compliments, placer des mots qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser, me faire la cour, draguer sans préavis. Le jour où je porte une jupe au volant de mon taxi, je fais le quadruple de la recette. Ils me prennent en dépôt, ils me prennent en course, ils me laissent avec les reliquats. Ils me font des mains basses, m'invitent prendre des pots, m'invitent dans des soirées. Tous les jours, j'ai une proposition de mariage, juste parce que j'ai porté une jupe au volant de mon taxi. Aux yeux de beaucoup de ces messieurs, je ne suis pas une taxi-woman, plutôt une pute ou une proxénète.
Mais j'ai une hygiène de vie, et je ne rigole pas avec. Désolé, messieurs. J'ai toujours bien su cacher ma vie privée. Comme je suis dans mon pays, je dois cacher ma vie privée. Ma cousine est venue chez moi pendant un an, on a eu des soucis, elle a arrêté. Ma demi-sœur est venue chez moi pendant presque 2 ans, on a eu des soucis, elle a arrêté. Je n'ai ni cousine ni demi-sœur. Mais comme je suis dans mon pays, je dois avoir une cousine ou une demi-sœur. Sinon, je n'ai pas de vie amoureuse. Dans mon quartier, il y a des rumeurs qui courent à mon sujet. Depuis que je vis seule, je ne fais pas plus d'un an dans un quartier. Je suis contrainte de vivre comme ça, pour ne pas laisser les suspicions. La loi dans mon pays est catégorique là-dessus. Pas de femmes et femmes, pas d'hommes et hommes. Sinon, c'est la prison. Sinon, tu te fais lyncher par la population. Alors je me cache pour vivre ma vie privée, ma vie amoureuse.
Dans le parc où je gare mon taxi, tous les taximens m'ont déjà fait des avances. Dans la station d'essence où je me ravitaille, tous les pompistes et les taximens m'ont déjà fait les avances. Maintenant, ils se disent des trucs entre eux, ouais. Je sais.
Elle est de l'autre côté, je vous dis. Mais tu as raison, elle est homosexuelle. C'est pas possible. Ah, depuis qu'elle traîne avec nous, aucun de nous n'a encore pu baisser sa culotte. Elle est Gwyn, elle est lesbienne, elle est Omas, elle est Tchelle, elle est Fadiaise, elle est Coquillard, elle est Jacket, elle est Jet Set.
Dans mon job, les rumeurs se transportent comme on transporte les passagers. De collègue en collègue, ça roule. De syndicat en syndicat, ça se transmet. Tous savent déjà que la seule femme chauffeur de taxi du pays est LGBT. Je suis convoquée à la délégation régionale de transport. C'est un coup des collègues qui n'ont pas pu baisser ma culotte.
Il y a de cela un mois, il pleuvait. Je n'avais aucun client dans mon taxi. J'ai vu une dame blanche qui tenait un minuscule parapluie. Elle était toute trempée. Je me suis arrêtée juste devant elle, j'ai demandé où elle allait, elle m'a dit « Bon Appriso ». C'est le quartier des gens qui ont plein de thunes. Elle s'est regardée, n'a pas voulu monter, elle était trop trempée. « C'est pas grave, montez madame !» Finalement, elle est montée. Tant pis pour mon siège. On a sympathisé, elle était vraiment cool. Ça devient de plus en plus rare de voir les gens cool. Elle s'appelle Elsa. Elle est vieille. Volontaire internationale. Ça fait 4 mois qu'elle est là, il lui reste encore 6 mois. Quand je la dépose devant l'immeuble où elle vit, elle dit « Ça te dirait de venir me chercher tous les matins pour mon boulot et de me ramener tous les soirs? Je te payerai tous les fins de mois. » C'est une aubaine pour moi. Quel chauffeur de taxi peut refuser ça? J'accepte ravi.
C'est aujourd'hui que j'ai rendez-vous à la délégation. Je suis à la délégation, avec monsieur le délégué, il me dit.
Tu es exceptionnelle. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme qui a ton courage, ton audace. Tu sais que tu es entrée dans l'histoire de ce pays. Tu es un exemple à suivre sur ce plan. Pourquoi je dis sur ce plan? Parce que l'autre plan, ce pourquoi tu as été convoquée, détruis tout ce que tu as construit.
Monsieur le délégué.
Je suis vraiment navré, mais la décision du ministre est irréversible. Tu ne peux plus exercer ce métier, la loi est formelle. J'ai de la peine de te dire ça. Je risque mon poste, tu comprends ? Tu vas me remettre tous tes documents. Ils veulent même que je te retire tes permis, mais je ne le ferai pas. Pour moi, tu es une icône. Ton choix de vie sexuelle ne me regarde pas. Prépare-toi, car une violente tempête va souffler dans ta vie. Ton syndicat a déposé une plainte contre toi au tribunal. N'hésite pas si je peux faire quelque chose pour toi.
Je suis terrassée. Cette nouvelle paralyse tout mon être. J'ai l'impression de m'évaporer. J'appelle Elsa. Les colporteurs ont très bien fait leur boulot. Tout mon quartier est au courant. Quand je passe, on me hurle dessus, m'insulte, me traite de toutes les saletés. Mon taxi n'est plus un taxi. Je l'ai repeint en vert. Je passe mes journées à la maison. Je fuis les gens du quartier qui, deux fois par semaine, se rassemblent devant ma porte pour me demander de partir sinon. Papa est passé me voir. Mes frères aussi. Maman dit qu'elle ne mettra pas les pieds chez moi. Heureusement qu'Elsa est là. C'est elle qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Depuis, aucun collègue ne m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. J'ai reçu une convocation pour le tribunal. J'ai dit à Elsa d'utiliser la voiture puisqu'elle ne me sert plus à rien. Elle a contacté une avocate pour moi. Il paraît qu'elle est spécialiste des questions liées à la marginalisation des minorités. Ce matin, les habitants du quartier se sont encore réunis devant ma porte. Ils m'ont donné le préavis jusqu'à demain matin. Ils ont déjà entassé des tas de pneus devant la porte. C'est la pratique en cours dans les autres quartiers de la ville. On brûle les gens comme moi. Parce que les gens comme moi, ça ne mérite pas de vivre. Ça mérite de crever, calciné.
Depuis 2 mois déjà, je vis chez Elsa. L'amour entre dans ma vie quand je sombre. L'avocate dit que je risque la prison. Elsa a entrepris des démarches au consulat. Son séjour au pays se termine dans 1 mois et elle veut qu'on parte ensemble. On s'aime. Des collègues à qui j'ai dit non témoignent contre moi. L'un confirme m'avoir déjà surprise chez moi en plein ébat, avec une ex-copine. Putain que les hommes peuvent être diaboliques quand on leur résiste. Mon dernier passage au tribunal m'a démonté. Il y a trop de charges contre moi. Des charges inventées de toutes pièces. L'une de mes ex, soi-disant cousine, m'accuse de l'avoir violée maintenant qu'elle sait que je me suis mise avec une blanche. Ça la rend folle. Comme la jalousie peut pousser les gens à se laisser dominer par la haine. La dernière audience au tribunal, c'est dans 2 jours. L'avocate dit qu'il faut que je feigne d'être malade, qu'on m'internera dans la clinique de son ami docteur. Elle est convaincue que cela tournera en notre défaveur. Ce matin, Elsa et moi, on s'est réveillés tout en sueur. On ne vit plus que sous le joug de la peur. On est censé voyager ce soir à 23h et j'ai toujours pas mon visa. Le dernier rendez-vous au consulat, c'est tout à l'heure, à 15h. On s'est dit que si l'on me refuse le visa, j'irai accompagner Elsa à l'aéroport, puis j'irai à la clinique. C'est ce qu'on s'est dit. Mais une toute autre voix me dit « Si celle que tu aimes s'en va, tu ne la verras plus, plus jamais. Il sera préférable qu'après son départ, tu ailles crever de remords au fond d'une prison. »
Partout devrait être chez nous.
On loue un appart de 30 mètres carrés en Seine-Saint-Denis.
Dans un immeuble en face de la gare SNCF.
Ça fait 3 ans qu'on est là.
Qu'Elsa et moi partageons la même vie.
J'ai un titre de séjour en tant qu'exilée politique.
En 2 ans, j'ai obtenu 2 diplômes de conduite.
On a fait un crédit à la banque pour m'acheter une voiture.
Ici, le taxi n'est pas peint en jaune comme chez moi.
Le taxi ici est comme le véhicule d'un haut fonctionnaire dans mon pays.
La première fois, j'ai eu de la peine à entrer dans un taxi. Ici, tellement c'était propre, trop neuf, trop classe, pas n'importe quelle marque. Ici, les taximens ne s'appellent pas taximan, on les appelle chauffeurs de taxi. Les femmes, il y a beaucoup qui conduisent, c'est la liberté.
J'ai appris qu'il y a un manque de conducteurs de poids lourds.
Qui sait, peut-être que la voie pour réaliser mon rêve s'ouvre enfin devant moi.
Quand amour rime avec job,
on se sent épanoui,
équilibré.
On ne sent ni le poids de l'amour, ni le poids du job.
Entre Elsa et mon taxi,
j'écris.
Je cherche les mots.
Ces mots qui diront ma part d'ombre.
Ces mots qui peinent à se laisser naître.
Ces mots totems qui habitent chaque parcelle de mon être.
De mon petit bureau où je suis.
Où je me fais malmener par l'inspiration.
Je vois l'esplanade de la gare SNCF.
Je vois les quatre arrêts de tram.
Et je me crois à Lagos.
Je me crois à Dakar, à Abidjan.
Je me crois à Bamako, à Conakry, à Niamey.
Je me crois à N'Djamena, à Cotonou, à Bangui, à Libreville.
On dirait que je suis à Kinshasa.
On dirait que je suis à Accra, à Marrakech.
On dirait que je suis à Tripoli, à Kigali, à Antananarivo.
On dirait que je suis à Harare, à Luanda, à Addis Abeba, à Maputo.
À travers cette petite fenêtre, j'entends des voix venant de Pretoria, Bujumbura, Nairobi, Rabat, Gaborone, Nouakchott, Douala.
L'esplanade de la gare de Saint-Denis.
C'est l'Afrique en miniature.
Et cette vision me féconde,
fait écho à ma propre douleur.
Tout ça engendre en moi une histoire à écrire.
Et chaque mot qui naît est une fissure que je raccommode.
Et on me demande quelle est ma pathologie.
C'est ça ma pathologie.
Je ne suis pas née comme ça.
Comme je suis.
Comme je suis, jamais on ne naît.
On doit devenir pour être.
Je suis.
C'est comme ça que je suis.